De philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 17 juin 1987.
Personne humaine n'existe que si la fille... intrinsèque à la finalité. Parce que je suis dans la mesure où je vis la finalité. Donc le je suis, l'expérience du je suis, implique le vécu de la finalité. Et l'éducation est de l'ordre, justement, de ce vécu. Il faut former une personne humaine qui a un sens de la finalité. C'est la plus grande chose qu'on peut faire. C'est donner ce sens de la finalité. La finalité, le philosophe peut préciser dans son analyse. La finalité, elle existe dans la contemplation et l'adoration. L'éthique religieuse. L'homme est un animal religieux. Et l'attitude religieuse fait partie essentielle de l'homme. Supprimer cette attitude religieuse, c'est mutiler l'homme. Donc, dans le « je suis » est impliqué essentiellement, je dis bien, est impliqué essentiellement la dimension du vécu de l'adoration et de la contemplation. Ensuite, ce que nous avions vu ce matin, l'autre vécu, c'est l'amitié. C'est là où nous découvrons en premier lieu notre finalité humaine. Je dis bien notre finalité humaine. Et ce vécu de l'amitié humaine assume toute l'analyse qu'on voit en éthique de ce que représente l'acquisition des vertus cardinales qui viennent purifier, ennoblir, éduquer. Éduquer, c'est ennoblir. Une éducation doit ennoblir la matière, exactement comme l'artiste ennoblit la matière. Éduquer toutes nos passions, tout notre psychisme. Vous voyez, ce matin, j'ai oublié de mettre l'imaginaire. Distraction pendant la prière. J'ai oublié de mettre l'imaginaire. L'imaginaire au niveau de la passion, l'imaginaire au niveau de l'efficacité. Sodome et l'Égypte. N'oubliez jamais ça. Parce que c'est dit de manière telle dans l'Apocalypse que c'est très très fort. Donc, tout notre psychisme, c'est les passions, toute notre affectivité. Toute notre affectivité passionnelle, anarchique. Les passions sont anarchiques. Alors, ne cherchez pas à mettre un ordre dans l'anarchie. Il n'y en a pas. Essayez d'éduquer ce climat anarchique. Et on éduque ce climat anarchique en voyant les orientations. Dans ce climat anarchique passionnel, quelles sont les grandes avenues que je peux mettre? Des avenues, pas comme dans un jardin français, mais des avenues organiques. Il peut y avoir un jardin français qui est organique, mais quelquefois c'est appliqué de l'extérieur. Des avenues qui viennent de l'intérieur. La tempérance assume tout le concupiscible. La force assume l'irascible. La justice assume la volonté à l'égard de l'autre. Et puis la prudence est consciente de la matière devant laquelle je me trouve. Être conscient de la capacité que j'ai de transformer cette matière. C'est ça la prudence. Connais-toi toi-même. Le mot d'ordre qui est donné à Socrate. Connais-toi toi-même. Pas d'éducation sans cette connaissance de soi. Or la prudence, c'est se connaître soi-même. C'est cette limpidité par rapport à soi-même. Donc voyez, la prudence, elle est double. Elle est du côté de l'éducateur. L'éducateur, normalement, doit avoir déjà acquis la prudence. Mais il l'acquiert des aînés, hein. Il y a d'autres avantages. Il a le droit d'aînesse. Il restera éternellement un droit d'aînesse. C'est très curieux, ces choses-là. C'est des axiomes, c'est des lois. Des lois dans une famille. Et ça se répercuterait dans toutes les choses, ça se voit tout le temps, ça. Bon, alors, on voit ces choses-là, il faut qu'à travers tout cela, on découvre les avenues. En vue de la finalité. Le concupiscible canalisé, éduqué par la tempérance, m'aide à aimer. L'irascible éduqué par la force, canalisé et ennobli par la force, aime, me permet d'aimer. Faut être fort pour aimer. La volonté éduquée par la justice me permet de respecter l'autre. Oui, le respect est très fondamental. C'est beaucoup plus spirituel. Respecter l'autre. Respecter l'autre, c'est respecter. Je respecte la matière. Il y a un respect de la matière. Fondamentalement, je respecte ses nœuds. Il a tel tempérament. Il est né comme ça. Il est éduqué comme ça. Je ne vais pas essayer de changer ça. Je me tuerai. Et je le tuerai. C'est pour ça que c'est si difficile de rééduquer ceux qui sont déjà éduqués. Au noviciat, hein, quand vous avez des novices qui entrent à 40 ans, c'est pas la même matière que ceux qui ont 18 ans. Parce qu'à 40 ans, ils ont déjà beaucoup plus de nœuds. C'est déjà une vie qui a été taillée pendant. Donc il faut faire attention. Même s'ils entrent avec une gêne, on se dit, ah mon père, traitez-moi comme le dernier des novices. Ils disent toujours ça. Mais c'est faux. Parce que ça dure un jour. Ça. Dès le lendemain, c'est plus comme ça. Parce qu'eh bien, il faut accepter, quoi. Il faut accepter qu'ils n'ont plus 18 ans. Et dans l'ordre éducatif, ça joue. Et celui qui est entre deux, celui qui a 30 ans, donc il n'a pas 40 ans, il n'a pas 18 ans, il a 30 ans. C'est encore autre chose. C'est pas la même chose du tout. Oui, ça, c'est la connaissance de la matière. Et le respect de la matière, la justice. On respecte quelqu'un. On respecte tel qu'il est. Alors si on voit évidemment qu'il y a des nœuds tels que la vie commune en prend des... Parce qu'il y a des nœuds qui ne peuvent pas brûler. Alors si à ce moment-là, non, c'est très très bien. Vous pouvez vous donner entièrement à Dieu, mais la vie commune, c'est pas fait pour vous. Ah non, 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 la vie commune, c'est pas fait. Alors on peut dire ça. Vous serez peut-être ermite. Peut-être. Je dis pas qu'on doit envoyer chez les ermites tous ceux qui sont incapables de vivre la vie commune. C'est l'inverse qui doit exister. Le père Emmanuel Ier a dit, faut 10 ans de vie commune avant de devenir ermite. Et si vous télescopez la phase des 10 ans de vie commune, vous serez jamais un ermite. Parce que la vie commune apprend les vertus. Ça vous apprend les vertus. Les petits cailloux pointus qui deviennent ronds. Et les petits cailloux ronds qui deviennent pointus. C'est comme ça. C'est l'acquisition des vertus. Et l'acquisition des vertus, c'est le soubassement de la finalité. Les vertus ne nous donnent pas la finalité. Des gens très vertueux peuvent être des imbéciles au point de vue de la finalité. Ça existe. Ça existe. Ils sont tellement vertueux que ça glisse, il n'y a plus aucune réaction. Marcher sur les pieds, oh, jamais, ils s'irritent jamais. Oh, non, non, non. Sorti du noviciat quand vous faites profession, votre personne religieuse. profession perpétuelle 50 ans après. Quand dans 50 ans, tous ceux qui ont fait profession perpétuelle cette année-ci se retrouveront à 15. Pas un qui aura dévié. Vous chanterez votre magnificat. Et vous comprendrez ce que c'est que la personne humaine. Au bout de 50 vers les jeux, on comprend beaucoup mieux ce que c'est que la personne humaine. Oui, il y aura des morts, mais cela, c'est très bien. Ils ont été fidèles. Les morts glorifient le Seigneur. Mais ceux qui ont des accidents de route, des pneus crevés, des pièles fondues, puis toute la carrosserie qui a brûlé, c'est la partie de ces accidents de route. Quelque chose de particulier. Alors transposez, vous voyez bien ce que c'est. D'un petit coup, il y a la fidélité, vous voyez. L'élément de fidélité est très important, ça c'est la finalité. La finalité exige la fidélité. Et c'est un des caractères, l'amitié réclame la fidélité, parce que c'est la finalité. C'est à cause de ça, un amour qui fait toucher la fin réclame la fidélité. La fidélité qui va donner du reste, c'est possible. Alors la fidélité, ça relève de quelle vertu? La prudence, la force, la tempérance et la justice, eh bien, ça relève de tout ensemble. Les quatre vertus cardinales sont connexes et leur fruit, c'est la fidélité qui émerge dans l'amour d'amitié. Parce que quand vous manquez de fidélité, ça provient d'un manque de force, ça provient d'un manque de lucidité, ça provient d'un manque de tempérance. Pour les hommes. Vous voyez David, hein? David, David, le grand David, il a manqué de fidélité. À cause de quoi? Il surveillait très bien le cratère du volcan. Et si on l'oubliait que ça pouvait éclater sur le côté. La tempérance, la chasteté, la vertu de force. Alors l'éclatement, moi très bien. Mais les grands exemples nous sont donnés dans l'Écriture, il ne faut pas l'oublier. Les exemples voulus par l'Esprit Saint, les exemples types, c'est plus fort que les femmes de la fontaine. La Bible, c'est plus fort que les femmes de la fontaine. Parce que ça nous donne des exemples qui sont marqués pour nous par l'Esprit Saint. On a cet immense avantage, c'est que l'Esprit Saint nous éduque. Et l'Ancien Testament, c'est toujours le terrain de l'éducation. Donc on y revient tout le temps. C'est le terrain d'éducation. Pour voir l'exercice des vertus. Alors maintenant, posons-nous la question. Y a-t-il un type de personne humaine pour le fat-gérer au sens le plus vaste? Voyez, la grande division. L'adjéré, commandé par l'amour d'amitié. La filion. Ça, c'est l'adjéré. C'est ce que nous avons vu. L'adjéré conduit à former en nous une personne d'un type éthique, mais au-delà de l'éthique, un type humain, l'ami. C'est très grand, l'ami. Avant de se poser la question, il y a deux petites questions annexes. Est-ce que l'amour d'amitié est nécessaire pour arriver à la sagesse? Pour arriver à cette personne humaine qui est le sage, est-ce que l'amour d'amitié est nécessaire? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par l'amitié pour arriver à la sagesse? Bien, je dis non. C'est pas absolument nécessaire. Le fanatisme, c'est la caricature de la personne. C'est la passion religieuse qui l'emporte. Or, il y a deux grandes passions en nous, dominantes. Passion religieuse, passion politique. Et quand les passions religieuses et les passions politiques se rencontrent et s'embrassent, alors c'est terrible. C'est ça qu'on appelle le fanatisme. Et alors, le fanatisme détruit la personne. Parce que c'est la passion. C'est pas la finalité, c'est la passion. Et ça devient la tyrannie. Vous voyez? L'Égypte qui l'emporte. Sodome et l'Égypte. Et dans la tyrannie, dans le fanatisme, c'est toujours la tyrannie. Ça se termine par une tyrannie. On exclut tous ceux qui ne sont pas de la même religion. Ce qui est contraire à l'attitude religieuse. L'attitude religieuse doit nous ouvrir vers Dieu. Et donc d'avoir un cœur aussi vaste que celui du Père, l'évangile d'hier. Le Père qui fait luire le soleil sur les bons et les mauvais. Si vous êtes religieux, vous faites luire le soleil sur les bons et les mauvais. Ce que vous considérez bon et mauvais. Donc l'attitude religieuse, c'est l'inverse du fanatisme. Et le fanatisme, c'est la corruption d'attitude religieuse qui aboutit nécessairement à exclure. Je crois que ça, c'est important de voir. Vous voyez, il y aurait un autre... Je ne le fais pas maintenant, mais ce serait très intéressant, c'est de voir les caricatures de la personne. Et le fanatisme est une caricature. Caricature démoniaque, si vous êtes chrétien, vous dites une caricature démoniaque. L'antichrist, c'est une caricature de la personne. Et c'est ce fanatisme. Parce qu'il y a des caricatures des personnes, de la personnalité humaine. Alors, je me pose la question, est-ce qu'au plan politique, il peut y avoir une personne de l'homme politique. Homo politicus, est-ce que c'est une personne? Homo politicus. Ayez dans votre tête tel ou tel personnage politique. Hein, facile. Une image. Je ne les nomme pas. Vous n'avez qu'à les voir. Est-ce que, de fait, il y a une personne politique? Est-ce que De Gaulle est une personne politique? Est-ce qu'il y a la personne et l'homme politique? C'est curieux. Est-ce que Pétain est un homme politique, est une personne politique? Pour prendre les deux extrêmes. Alors, vous voyez, c'est très intéressant de se poser la question. Eh bien, je crois que philosophiquement parlant, l'homme politique est un homme au service du bien commun. C'est un serviteur, l'homme politique. S'il reste vraiment un homme politique, il ne découvre pas une nouvelle finalité. Il n'y a pas une nouvelle finalité. C'est le bien commun. Et le bien commun, par définition, il est commun. C'est le bien de tous. C'est le bien de l'homme politique et de tous ceux qui sont dans la communauté. Et donc l'homme politique est un serviteur du bien commun. En tant que serviteur du bien commun, je me pose la question, y a-t-il une personne au niveau du service? Ou est-ce que le service n'est-il pas toujours un aspect fonction? C'est très important de bien comprendre la différence entre la personne et le fonctionnaire. Le fonctionnaire, par définition, est un serviteur, un bon serviteur, et l'ordre de l'efficacité devient souverain. Alors quand l'efficacité devient souveraine, l'efficacité fait qu'il n'y a plus de morale. Machiavel, c'est le politique efficace qui supprime le moral. Et c'est le fonctionnaire qui veut être une personne.
Né dans une famille, et c'est
C'est essentiel, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'homme est un être politique qui a besoin de la famille, qui a besoin de la politique, qui a besoin de l'éducation. Mais l'éducation n'est pas une finalité. L'éducation est un moyen en vue de la finalité, en vue de découvrir la personne humaine. Vous voyez ? Donc, il faut bien comprendre, il y a des conditionnements essentiels à la personne. Personne en devenir qui implique la dimension du devenir. Cette dimension du devenir, c'est la communauté politique qui doit la prendre. Mais la dimension du devenir n'est pas la finalité. La finalité est au-delà du devenir. Le devenir peut être très important que des quantités de personnes ne dépassent pas beaucoup. Ça, je suis tout à fait d'accord. Surtout aujourd'hui. C'est, je crois, ce qui arrive constamment aujourd'hui. Mais même, vous voyez, quand vous dites que la finalité de l'État, par exemple, c'est la bonne entente, la concordia. La concordia, c'est déjà une certaine.